Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous invite au Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris, qui inaugure ce samedi 16 juin une toute nouvelle exposition intitulée « La mode en mouvement ». En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le Palais Galliera, musée de la mode de Paris, propose « La mode en mouvement », sa dernière exposition présentée dans les galeries Gabriel Chanel du musée et qui se tient du 16 juin 2023 au 7 septembre 2025. Une exposition qui bénéficiera de trois accrochages successifs afin de garantir la conservation des œuvres d'une part, mais aussi de renouveler le parcours et d'inviter les visiteurs à revenir dans ce merveilleux musée. Notez d'ailleurs que le premier accrochage se terminera le 15 mars 2024. Cette exposition, elle s'inscrit dans la continuité de l'exposition « Une histoire de la mode collectionnée, exposée au Palais Galliera ». Cette exposition qui s'est tenue dans ce même musée du 2 octobre 2021 au 26 juin 2022. Une exposition que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon blog lescarnetsdigor.fr dans l'article que j'avais réalisé à l'époque à ce sujet. Cette nouvelle narration des collections du musée ambitionne de poursuivre donc le récit historique de la mode du XVIIIe siècle à nos jours, tout en explorant une thématique incontournable aujourd'hui, une thématique en lien avec le sportswear et l'idée de confort et de bien-être qui a envahi nos garde-robes. Je veux parler donc de la question du mouvement dans la mode, de l'évolution du rapport au corps, notamment féminin, au cours de l'histoire et de ses conséquences sur la construction du vêtement. Ou encore, je parle aussi ici des liens évolutifs entre sport et mode, dont les influences mutuelles n'ont cessé de s'accélérer au cours des siècles et notamment ces dernières décennies. À travers 200 pièces issues des archives conservées au Palais Galliera bien sûr, mais aussi de près de grandes maisons de mode et d'institutions culturelles, le parcours chronologique de l'exposition met en parallèle la garde-robe de ville et le vestiaire sportif du XVIIIe au XXIe siècle, mettant l'accent sur leurs divergences et surtout sur leur rapprochement croissant. On y découvre les évolutions des matières, des silhouettes et des pièces de mode, vêtements, accessoires, chaussures, ces pièces qui vont progressivement réduire la contrainte qu'elles imposent au corps pour en libérer le mouvement et se spécialiser ensuite jusqu'à introduire le sportswear dans notre quotidien. Un rapport au corps qui évolue en même temps que les activités physiques et sportives se généralisent et en même temps que le besoin de confort et de performance s'accroît, imposant à la mode de s'adapter et d'innover. Les chaussures d'abord, puis les vêtements et accessoires se transforment ainsi et trouvent de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux nouveaux besoins de la société. L'exposition nous ouvre alors les portes de cette histoire du sport et de ses influences sur le monde moderne et en particulier sur la mode. En suivant le parcours de visite, on apprend notamment comment sont nés le sport et les premiers jeux de compétition dans la haute société anglaise puis française du XVIIIe siècle. Puis on découvre le XIXe siècle et ses théories hygiénistes qui vont encourager les activités physiques pour entretenir la santé, comme l'équitation, la promenade, les bains de mer, la chasse, le tennis, le golf, le croquet ou l'escrime. On apprend aussi que la démocratisation du sport s'est accélérée avec l'arrivée du cyclisme à la fin du XIXe siècle, puis comment les sports automobiles se sont développés dans la haute société au tournant du XXe siècle. La visite nous guide ensuite de la création des fédérations unisports et des compétitions sportives dans l'entre-deux-guerres jusqu'à la valorisation du corps athlétique dans les années 1980, puis de la montée du sportswear dans les années 90 à sa toute puissance au XXIe siècle, jusqu'à l'hégémonie de la basket et de la sneaker devenues, comme vous le savez, de véritables icônes de mode. Alors maintenant que vous avez en tête les questions et enjeux que soulève cette nouvelle exposition, je vous propose de vous en dire plus à travers la visite que j'en ai faite, une visite que je vous invite bien sûr à suivre par vous-même ensuite. L'exposition s'ouvre sur deux tenues de bain du début et du milieu du XXe siècle, des tenues qui s'imposent ici comme symbole du changement de regard de la société sur le corps. Un corps qui, au fil des décennies, vous allez le voir, va revendiquer toujours plus de confort et la nécessité d'une véritable hygiène sportive. La visite nous apprend ainsi que si la mode s'impose d'abord au corps en la contraignant face aux exigences esthétiques et sociales, elle va peu à peu s'adapter aux évolutions sociétales et libérer ce corps qui ne demande qu'à bouger. Longtemps opposés, mode et mouvement vont ainsi se rapprocher jusqu'à leur interdépendance. Le parcours commence par de sublimes et rares pièces du XVIIIe siècle. On comprend alors combien les robes à paniers et les corps baleinés du début du siècle pouvaient empêcher la fluidité des déplacements et réfréner la mobilité des femmes. Les hommes, eux, bénéficiaient de plus de liberté grâce à des pièces plus larges. Mais rapidement, dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe, les robes imposantes vont laisser place aux robes droites et lâches qui vont un temps libérer le corps féminin. La plus célèbre des illustrations de cette légèreté émergente est certainement le portrait de Marie-Antoinette à la rose en robe de mousseline, dite aussi à la créole, en chemise ou en gaule, réalisée en 1783 par Elisabeth Vigée-Lebrun et qui fit scandale à l'époque. On apprend aussi dans cette section que finalement, si le vêtement masculin, habits et culottes ou pantalons, a peu évolué, c'est surtout celui de la femme qui a connu le plus de bouleversements. Aussi, comme l'exposition le propose elle-même, je vais ici surtout me consacrer aux évolutions de la garde-robe féminine. S'ouvre alors le siècle de toutes les modes, le 19e siècle. Cette période est marquée par un renouvellement toujours plus rapide de la silhouette des femmes, une mode féminine changeante qui se fait l'écho des rythmes de vie qui s'accélèrent, des rythmes portés en France par la Révolution industrielle et la succession de nombreux régimes politiques. Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, Deuxième République et Second Empire. Ainsi, le 19e voit les volumes fluctuer, avec l'apparition des manches gigot dans les années 1830-1840, le règne de la crinoline dans les années 1850-60 et l'émergence des tournures et poufs dans les années 1870-80. À cette époque, la taille va aussi s'affiner, aidée par le corset, et le nombre de tenues quotidiennes va augmenter au regard des activités de la journée qui se multiplient. On trouve ainsi des tenues d'intérieur, de promenade, de soirée, etc. L'exposition inaugure ensuite le XXe siècle avec la silhouette 1900, qui, au contraire du début du siècle précédent, va contraindre de nouveau le corps avec une silhouette en forme de S, une silhouette corsetée au maximum et plus que jamais rigide, une silhouette typiquement Belle Époque qui véhiculera l'image d'une Parisienne au sommet de l'élégance lors de l'exposition universelle de 1900. Une décennie plus tard, les années 1910 vont de nouveau chercher à libérer le corps avec l'entrée en scène de créateurs comme Paul Poiret, suivi par Jacques Doucet ou Jeanne Paquin. Des créateurs de mode qui vont supprimer le corset et simplifier la silhouette avec des robes fourreaux ou à taille haute par exemple. Cependant, à cette même époque, et plus généralement entre les années 1830 et 1910, la pratique sportive va se féminiser avec le développement de l'équitation, des bains de mer, de la chasse à tir, du lawn tennis, puis du golf, du croquet ou encore de la conduite automobile. Si elles sont d'abord réservées à une clientèle aristocratique et bourgeoise, ces nouvelles activités physiques vont se démocratiser avec la popularisation du cyclisme ou de la natation au tournant du XXe siècle. Aussi, en parallèle du foisonnement des toilettes sophistiquées appropriées aux mondanités de la journée et du soir, et qui se succèdent tout au long du XIXe siècle, eh bien vont s'ajouter des vêtements et accessoires dédiés à la pratique des activités physiques et sportives. D'abord composée de simples adaptations des tenues quotidiennes, la garde-robe des femmes s'agrémente peu à peu de nouveaux éléments spécialement dédiés aux activités sportives, qui sont soit créés de toutes pièces, ou parfois même issus du vestiaire masculin. D'ailleurs, le vestiaire masculin est plus avancé à ce sujet et il s'est déjà spécialisé pour gagner en confort et en performance lors de la pratique désormais régulière des sports, ce qui explique aussi pourquoi la garde-robe féminine va s'en inspirer. L'exposition nous présente ainsi un beau panel d'objets et de vêtements sportifs, des vêtements et des objets à la fois masculins et féminins. On peut donc observer les tenues et accessoires d'équitation, spécialement conçus pour permettre aux femmes de monter en Amazone sur leurs chevaux. On trouve ici des robes composées d'une veste ou d'un corsage et d'une longue jupe, mais aussi des chapeaux haute forme ou canotiers, ou encore différents modèles de bottes. On découvre aussi ici des vêtements de bain étonnants. En effet, réputés pour être bons pour la santé, les bains de mer se répandent tout au long du XIXe siècle, en même temps que les chemins de fer et les stations balnéaires se développent. Si les femmes et les hommes doivent d'abord se baigner séparément, et si le vêtement de bain réalisé en lin, laine ou flanelle doit au départ couvrir tout le corps, peu à peu la peau se dévoile et le costume de bain se fait de moins en moins couvrant. L'exposition nous présente ensuite les tenues parfois originales dédiées à la pratique du cyclisme dès les années 1870-80. Certaines femmes adoptent alors la culotte, directement issue du vestiaire masculin, une culotte bouffante ou bloomer, inventée par la féministe américaine Amelia Jenks Bloomer, qui va provoquer souvent le scandale et qui fera dire surtout aux médecins que monter à vélo peut être dangereux pour la fertilité des femmes. Une idée, enfin une façon en tout cas d'essayer d'éviter que les femmes ne se pervertissent, entre guillemets bien sûr, en portant des pantalons. Enfin, nous découvrons les vêtements et accessoires imaginés pour le sport automobile qui connaît un véritable engouement au début du XXe siècle. Gants, manteaux de fourrure pour se protéger du froid, cache-poussière en toile de lin ou de coton pour les jours plus chauds, chapeau et casquette avec voile, lunettes de conduite réalisées en matériaux nobles, du cuir à la soie en passant par la fourrure. Bref, tout est prévu pour être protégé et élégant. Toutes ces nouvelles activités conduisent inévitablement à des mutations dans la mode féminine et notamment à la libération du corps des femmes. Une libération qui va s'accélérer avec la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. En effet, alors que les hommes sont sur le front, les femmes prennent en main la vie du pays, elles vont travailler à des tâches jusque-là considérées comme masculines et en s'émancipant, elles vont opter pour une mode plus fonctionnelle. Avec la fin de la guerre et l'entrée dans les années 1920, commence ce qu'on appellera plus tard les années folles. La silhouette féminine se veut plus androgyne et plus simple dans la forme, mais elle apparaît en revanche riche d'ornements et ultra accessoirisée, avec des perles, pampilles, strass, plumes, pierreries, diadèmes, sautoirs, etc. Le nombre de tenues quotidiennes se multiplie alors, de la robe du jour plus sobre aux habits de soirée richement parés de broderies, bijoux et autres matières précieuses, car dans les années folles, on sort et on danse beaucoup. Les robes se raccourcissent ainsi pour suivre les rythmes endiablés du charleston et du foxtrot, et le mouvement est valorisé par les ajouts parfois excessifs de volants et de franges sur les tenues de soirée. Par ailleurs, l'utilisation croissante de la maille, en particulier pour les vêtements de jour, comme le fera Gabrielle Chanel qui sera la première à travailler le jersey, eh bien cette utilisation de la maille va renforcer l'idée que le confort, comme le besoin de mouvement, est nécessaire à une femme en quête de liberté. De la même façon, on va s'intéresser au développement technique des vêtements et accessoires pour gagner en performance sportive. Ce sera le cas avec la découverte du caoutchouc qui, grâce au procédé de vulcanisation inventé par Charles Goodyear aux États-Unis en 1839, va permettre la création de semelles plus souples et légères, idéales pour les sports de vitesse. Changeons maintenant de décennie. Si les années 1920 consacrent la libération du corps féminin, les années 1930 vont le magnifier grâce à une maîtrise parfaite des lignes, des coupes et des volumes. La coupe en biais de Madeleine Vionnet modèle ainsi le corps à la perfection par un savoir-faire et une utilisation précise des matières souples et floues. La silhouette s'allonge et se sophistique, tandis que la garde-robe se diversifie, tenues de matinée, de jour, de petit et grand soir, pyjama de soirée pour accueillir ses invités, etc. Dans le même temps, la mode d'une silhouette féminine longiligne prônée par les années 1920 et 1930 encourage les femmes à faire du sport et à prendre soin de leur corps. L'idéal féminin change, emmené par une image plus athlétique, dénudée et en mouvement, véhiculée dans les magazines. De leur côté, les tenues de sport font désormais bien partie de la garde-robe des hommes et des femmes de l'époque. Ce sera le cas pour le tennis, pour lequel les hommes portent des costumes spécifiquement conçus, et les femmes s'habillent de jupes plus courtes pour plus d'aisance de jeu. Ce sera aussi le cas pour le golf, ce sport né en Écosse au XVIIIe siècle et qui s'est développé au sein de la haute société européenne tout au long du XIXe, avant de se professionnaliser au XXe siècle. C'est à cette époque, dans les années 1920-1930, que le golfeur va ainsi revêtir sa célèbre silhouette très reconnaissable, composée d'une veste, la Norfolk, et d'une culotte bouffante, les Knickerbockers, souvent faite de tweed, cette matière confortable et étanche. Une tenue de golfeur donc vont également s'approprier les femmes, en portant à la ville des sweaters, cravates ou encore des pochettes. Cependant, la créativité des années 1920 et 1930 va malheureusement être mise à mal par l'entrée en guerre de l'Europe en 1939. La Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, va contraindre les couturiers à repenser leur façon de créer la mode en raison de la rareté des matières premières d'une part, du rationnement et d'une économie en berne d'autre part. Les silhouettes raccourcissent pour nécessiter une moindre utilisation de tissus, les épaules se font plus carrées comme influencées par les tenues des militaires et la taille se fait plus marquée. Le manque de matières traditionnelles comme la laine ou la soie pousse également la mode à s'approprier de nouvelles fibres artificielles issues de l'industrie comme la cellulose ou la rayonne. Finalement, après les frustrations de la guerre, les années 1950 vont ouvrir une décennie propice au renouveau créatif, notamment avec le New Look de Christian Dior en 1947. Les silhouettes s'ultra-féminisent avec des épaules arrondies, une taille affinée par l'usage de guêpières et des hanches très marquées. Les volumes s'épanouissent, les robes du soir, longues ou courtes, remettent la haute couture parisienne sur le devant de la scène et le prêt-à-porter, qui en est à ses balbutiements, apporte confort et modernité à la mode quotidienne, notamment sous l'influence du sportswear américain avec des blousons et des pièces en maille. Plus libres, les années 1960 vont totalement décloisonner la silhouette et les vêtements vont s'éloigner du corps. La mode s'inspire d'un futur imaginaire, métallisé et ultra coloré, à l'instar de la combinaison qui reprend les codes de la conquête spatiale tout en garantissant un confort extrême aux femmes qui la portent. La silhouette est en mouvement constant, comme la jeunesse en quête de plus de liberté. Et un bel exemple de cette émancipation, c'est bien sûr la mini-jupe, popularisée par l'anglaise Mary Kant et qui se diffuse à grande vitesse comme le symbole d'un corps décomplexé. Un corps décomplexé qui annonce la révolution sexuelle toute proche et la liberté insouciante des années 1970. L'exposition nous transporte ensuite dans les années 1980, une décennie où le corps prend toute sa valeur et devient l'objet de toutes les attentions. Les nouvelles générations de créateurs de mode, parmi lesquels Jean-Paul Gaultier, Claude Montana, Asdine Alaïa ou Thierry Mugler, vont créer une mode spectaculaire, extravagante et visuelle, comme pour exorciser les crises économiques successives ou l'apparition tragique du sida. La silhouette ultra structurée n'en est pas moins féminine, et la mode, influencée par le sportswear qui se diffuse plus largement avec l'engouement pour l'aérobic, intègre la notion de confort au choix esthétique, accompagnée par l'émergence de nouvelles matières plus souples et élastiques. Mais en réalité, ce sont les années 1990 qui voient s'imposer le sportswear comme véritable point de vue mode. Les matières innovent et se font plus techniques et performantes, les formes plus minimalistes et fluides garantissent un confort optimal. En parallèle, la haute couture renaît, portée par un subtil mélange entre les codes du sportswear et ceux d'un luxe sophistiqué. Et cette mode de la fin du XXe siècle est également marquée par une diversité d'influences issues du monde de la musique, avec le hip-hop, le grunge, ou des médias alors tout-puissants comme MTV ou encore les séries télé américaines. Pour conclure, l'exposition se termine par notre siècle, le 21e siècle donc, celui de l'hégémonie du confort et de la perméabilité entre les mondes du sport et de la mode. Les styles s'uniformisent avec la mondialisation et l'émergence des puissants réseaux sociaux. Les marques de mode s'associent avec les marques de sport et les collaborations esthético-sportives se multiplient. Enfin, ultime symbole de cette fusion des univers sportifs et créatifs, j'en ai déjà parlé, la basket ou sneaker, aujourd'hui icône de mode et objet recherché des collectionneurs. Pour finir, je terminerai sur une anecdote historique et sémantique, celle de l'origine du mot sport. En effet, si les Anglais ont inventé le mot sport au XVIIIe siècle pour désigner les activités et passe-temps qui se développent alors dans la haute société d'outre-Manche, courses de chevaux, combats de boxe ou de lutte, chasse aux renards, etc., eh bien il faut savoir que le terme sport est en réalité dérivé du français médiéval de sport, qui signifiait alors amusement. Il en est d'ailleurs de même pour le tennis, inventé dans sa forme actuelle par les Britanniques. Son origine viendrait du jeu de paume français, ce sport né au Moyen-Âge dans lequel deux joueurs, séparés par un filet, s'affrontent en se renvoyant une balle de cuir avec la paume de la main, une main gantée ou parfois même accessoirisée d'une sorte de raquette avant l'heure. Alors conquis par ce jeu français, les Anglais l'auraient importé sur leur île au XVe siècle, et tandis que les Français avaient pour coutume de crier haut et fort un « tenets » à leur adversaire, ce qui signifie « tenez » en vieux français, eh bien les Anglais auraient alors transformé progressivement ce mot de « tenets » en « tennis ». Le tennis anglais, joué avec des raquettes, s'institutionnalise ensuite dans sa forme moderne au XIXe siècle, lorsque le major Walter Clopton Wingfield rédige et publie des règles officielles en 1874, des règles dans lesquelles il est indiqué que le jeu se pratique sur gazon avec une balle en caoutchouc qui pouvait rebondir sur l'herbe. Ce tennis est alors nommé lawn tennis, tennis sur gazon, par opposition au real tennis, jeu de paume en anglais. Face au succès de ce jeu, un tournoi est organisé en 1877, c'est le célèbre tournoi de Wimbledon qui définira ainsi les règles du tennis, la taille et la forme du terrain. En France, la Fédération française du lawn tennis est créée en 1920 et les internationaux de France, devenus le tournoi de Roland-Garros que nous connaissons tous, sont organisés dès 1925. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir l'exposition La mode en mouvement au Palais Galliera, ou qu'elle vous aura aussi peut-être donné envie de faire du sport. De mon point de vue, les expositions du Palais Galliera sont toujours riches d'intérêt, de découvertes et de plaisir pour les yeux comme pour l'esprit, et je vous recommande donc vivement de visiter cette nouvelle expo très documentée. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette exposition, mais aussi d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris et diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.